Vous êtes toujours à l'écoute de État de Splendeur avec Patrick Assikian. Et nous retournons sur Terre avec un sujet tout autre. On parlait précédemment des fraises. Et maintenant, on va parler de la chronique monastique. C'est une chronique qui explore chaque semaine un différent monastère qui fait une production assez singulière, soit de produits du terroir, produits régionaux, ou qui a une activité digne de mention. Et aujourd'hui, on va du côté des Basses-Laurentides pour un monastère de moniales grecques orthodoxes dont les productions sont si excellentes qu'on ne peut pas ne pas les souligner. Alors, c'est un monastère qui s'appelle le Saint-Monastère de la Vierge Marie la Consolatrice à Brownsburg, Chatham. Ça, c'est pas loin de la chute dans les Basses-Laurentides. C'est un monastère de moniales grecques orthodoxes. Des moniales, c'est exactement l'équivalent des moines, mais c'est au féminin. Donc, c'est des bonnes sœurs qui sont moines. Et puis, ce monastère est, contrairement à bon nombre de monastères, assez récent. C'est surprenant que la communauté grecque orthodoxe ait pu fonder un monastère. Et c'est fort agréable de l'apprendre d'ailleurs. C'est un monastère qui date de 2001. Et puis, en plein Brownsburg, Chatham, c'est entouré d'une forêt. C'est un endroit assez coquet, d'ailleurs, devrais-je ajouter. C'est un ancien bâtiment qui date d'avant 2001, évidemment. Et là-bas, on peut y retrouver 22 sœurs. C'est des sœurs cloîtrées, moniales. Et puis, ils produisent, en outre d'être dévoués à la prière et puis à la contemplation, ils font aussi beaucoup de travail. Et dans leur travail, ils font différentes sortes de productions. Et leurs productions sont toutes remarquables. Alors, il y a certaines sœurs qui s'occupent du troupeau de brebis, de chèvres, de la cuisine, de la confection. Et puis, c'est un des monastères avec la plus substantielle gamme de produits de qualité. C'est vraiment sans pareil. Parce qu'au Québec, on a différents monastères, comme par exemple le monastère de Saint-Benoît-du-Lac qui fait le fromage l'ermite, et puis bon nombre d'autres fromages d'ailleurs. Et une bonne partie des monastères ont une production pour un peu gagner leur existence et puis aussi rayonner dans le monde extérieur. Et puis, ce monastère, qui est quand même relativement petit et récent, est vraiment un monastère qui produit une gamme surprenante de produits pour un petit monastère comme ça. Et puis, chaque produit, ou presque chacun de leurs produits, sont des véritables produits du terroir. Alors, il fallait quand même mentionner ce monastère. Il n'y a pas de produits de masse, c'est tous des produits soignés qu'ils font. Évidemment, il y a le côté iconographie. Ils font beaucoup d'icônes de saints. Et puis, c'est à la méthode traditionnelle byzantine avec la colle animale. Et puis, c'est des remarquables icônes. C'est quand même des très belles pièces d'art et des broderies byzantines. Des savons, des chocolats, mais ce qu'ils font leur renommée, c'est vraiment leurs produits plus alimentaires. Donc, ils font des fromages, dont un qui s'appelle l'Antonite, l'autre qui s'appelle le Graviera. C'est d'ailleurs à travers leurs fromages que je les ai connus. Et puis, on commence à rentrer dans des productions un peu plus particulières. Ils font un yogourt de brebis. Et pour ceux qui aiment des yogourts plus artisanaux, qui vont chercher soit du yogourt biologique ou des yogourts un peu plus substantiels, là, le yogourt de brebis de ce monastère est fantastique. C'est vraiment un yogourt rustique et puis qui a une certaine texture qui est agréable et qui a du goût. C'est pas un yogourt fade. Là. C'est très agréable pour ceux qui aiment les yogourts typés, tels qu'on peut les retrouver dans les pays méditerranéens. Et puis, ils font une crème glacée de lait de chèvre. Et puis, tout est produit, évidemment, avec leurs produits à eux. C'est leur troupeau de brebis, c'est leur troupeau de chèvre. Et puis, il y a très peu de monastères ou même de produits fermiers, de producteurs fermiers qui font encore ça. Alors, si on rentre dans leurs produits vraiment phares, là, c'est évidemment la feta, c'est une tradition grecque. Et puis, eux, ils font honneur à la tradition grecque. Ils font un feta qui est tout à fait savoureux. Feta de brebis, de toute façon, les fetas traditionnels sont de brebis. Et puis, c'est tout simplement savoureux. Malheureusement, je ne peux pas vous en faire déguster à travers les ondes, mais j'aurais bien aimé. Et leur phare le plus impressionnant, c'est une ricotta. Ricotta qui est plutôt une tradition italienne, mais même les Italiens ou les membres de la communauté italienne, quand ils goûtent à la ricotta du troupeau béni, puisque c'est le nom de la marque des fromages que ce monastère fait, la ricotta du troupeau béni, c'est, même les Italiens sont bouche bée. Ils sont vraiment surpris quant à la qualité de cette ricotta-là. C'est, n'étant pas moi-même un spécialiste de ricotta, je ne pourrais pas tout à fait décrire ce qui fait de sorte que c'est une ricotta qui ressort parmi les autres, mais paraît-il que c'est une ricotta qui est tout à fait savoureuse et qui a toutes sortes de qualités qui sont incomparables. Et ils font aussi d'autres plats qui sont pas des fromages, comme par exemple la moussaka, qui est elle aussi une tradition grecque bien établie depuis longtemps, non seulement grecque, mais de toute la région. Là, on va pas dire que c'est... Il y a plusieurs pays qui se battent pour se dire auteur de l'invention de la moussaka. Mais le monastère en question fait une moussaka dite du troupeau béni qui est fantastique. C'est une moussaka qui est faite avec de la crème, évidemment, tous des produits de leur ferme, avec du fromage de brebis et puis de la viande d'agneau et aussi de la viande de chevreau et des aubergines du jardin. C'est absolument sans pareil. C'est le genre d'aliment qu'on retrouve très rarement sur le marché. Et puis, c'est étant donné que tout est non seulement fait à la main, mais tout est produit sur place, c'est vraiment singulier. Et puis, croyez-moi que pour ceux qui aiment les moussaka, c'est parmi les meilleurs dont j'ai goûté personnellement. Et c'est pas seulement en théorie que c'est artisanal, c'est vraiment artisanal. Tout le troupeau, les troupeaux en fait, puisqu'il y a des chèvres et des brebis, sont très à la main. Et il n'y a absolument plus personne qui traite leur troupeau à la main aujourd'hui. Même les producteurs fermiers biologiques de fromage au Québec, ils ne traitent plus leur vache à la main. Ça n'existe plus. Peut-être s'ils ont une vache et puis ils veulent en tirer un seau de lait par-ci ou par-là, mais c'est toutes les sœurs traillent le troupeau béni, puisque tel est son nom, à la main. Alors ça, c'est vraiment un des derniers troupeaux qui est trait à la main au Québec. Ça a carrément une valeur patrimoniale. Là. C'est vraiment singulier. Donc, il fallait le souligner. Alors, voilà pourquoi leurs produits sont évidemment très rares. On ne peut pas trouver leurs produits partout. C'est pas comme si on va dans n'importe quelle épicerie puis on peut demander ces fromages-là. Et ce qui fait d'autant plus leur attrait, vu qu'ils sont rares, c'est toute une trouvaille de tomber dessus. Alors, je peux évidemment pas faire une liste de où on les trouve, mais le travail de ces sœurs-là qui sont cloîtrées et puis dont tout leur amour va visiblement dans ces produits-là mérite d'être loué. Et puis, si jamais vous arrivez à trouver des produits ou des fromages qui sont de cette origine-là à la chute ou Brownsburg Chatham, sachez que c'est fait et puis avec un des derniers troupeaux qui sont très à la main. Et c'est artisanal, mais vraiment artisanal. On peut peut-être s'avancer sur... Il y a certains marchés où on peut les retrouver, comme le marché de Saint-Jérôme, qui est non loin de la chute. C'est disponible là-bas. Et puis, on peut en trouver au marché Jean-Talon, de manière générale. Mais c'est assez sporadique, évidemment. Donc, c'est comme partir à la chasse que de trouver ces produits-là. Quoique, pour ceux qui ont leurs endroits, ils pourront sûrement relativement facilement trouver le troupeau béni. Alors, de toute façon, c'est un reportage qui sera fait bientôt sur le site du magazine étatdusplendeur.com. Le magazine devrait être lancé à la fin du mois et il y aura sans doute un reportage sur ce monastère fort particulier que le monastère de la Vierge Marie la Consolatrice à Brownsburg Chatham. Donc, je vous souhaite de goûter à ces productions divines. On va aller en pause musicale tout de suite avec une pièce un peu plus posée de Félix Leclerc, une pièce qui s'appelle L'Ancêtre.
Une chanson presque neuve, L'Ancêtre, avec un air nouveau, sorti du fond des âges, et son petit chapeau sur sa tête de roi mage, tout guilleret et beau. le voilà sur ma page. Fier de chanter bien haut, d'où il vient. Sans bagage comme le vent du large, ses traces disparues. On l'a peut-être vu à Rome ou à Dieppe, il y a 2 ou 3 siècles. Ou en Andalousie, ou Mésopotamie. C'était bien rien pour lui de se dire fils de Noé. Il s'appelait Léo, et peut-être Émilien. Un peu de sang latin, pourtant des cheveux blonds. Et des yeux verts banquise, donc il était du Nord. Il était 5:00 quand il a touché terre. Un hiver, c'est beau la terre, c'est grand la terre, c'est bon la terre. McDonald ou Herman, ou peut-être Charlemagne, il avait 1000 noms. Se bâtit de cabanes, attendit le printemps. Une femme se coucha, ensemencée par lui. Le cuir, le lait, le tabac. Il a touché à tout avant de savoir lire. Touché à l'eau, à l'ours, à l'odeur, à la nuit. Le jardin était pur, les attelages magnifiques. Médéric Dominique, 42 fils uniques. L'océan dans les criques, une boutique à musique. Et des tics plein la peau, des écorchures au dos. Les saisons sont les filles des montagnes éternelles. Grenier, moisson, décor, à faire rêver les rois. Et alors, du dehors, la misère et la guerre. Il remonte à la côte, le courage, la faute. Toujours recommencer, le pont toujours tombé. Aux enfants nouveau-nés, ses racines, sa force. Après tant, tant d'années, au vent roule l'écorce. C'est beau la vie, cadeau suprême, je viens de lui. Ma robe pleine de trous, à genoux ou debout, comme un loup de légende. Quand je suis délaissé, je pense que je viens de lui. Et ma douleur s'enfuit pour cette vie. Merci Léo ou Émilien. La vaisselle est lavée, la lune va se lever. Ma femme dort, je vais dehors, encore viendra l'aurore. Les morts, c'est pas notre pays, à l'ancêtre et à moi. Puisque moi, je suis là avec des fils, pareil à lui.
C'était l'ancêtre de Félix Leclerc. Et puis maintenant, nous arrivons à la zone de la chronique fantomatique. La chronique fantomatique est une chronique récurrente qui explore un aspect défunt de la culture au Québec, ou un aspect soit méconnu ou une installation déchue. D'habitude, c'est un village fantôme qui est exploré, puisqu'il existe quand même certains villages fantômes au Québec. Évidemment, c'est pas comme aux États-Unis où il existe vraiment toute une panoplie de villages fantômes. Aux États-Unis, on peut retrouver en plein milieu de nulle part des anciens villages miniers qui sont en ruine et puis qui sont souvent même des véritables villages fantômes qui peuvent être explorés et qui causent la frousse à bon nombre d'explorateurs improvisés. Ici, malheureusement, tous les villages fantômes, ou presque, ont été rasés. On a une politique de ne plus les laisser debout, justement à cause de l'histoire du village dont on va parler. Le village dont on va parler a déjà fait l'objet d'une chronique fantomatique précédente sur la radio web d'État de Splendeur. On peut faire un bref rappel. Il s'agit de Schefferville. C'est un village nordique dont on entend de plus en plus souvent parler puisqu'il y a un certain mythe autour de Schefferville, ce qui est compréhensible puisque c'est un des derniers villages fantômes. Mais c'est en fait le village qui a fait de sorte que on a décidé désormais de raser tous les villages qui se font fermer. C'est ce qui fait qu'il ne reste presque plus de traces des villages fantômes du Québec. C'est que, en fait, Schefferville, un petit village minier ouvert dans les années 50, autour du 54e parallèle dans le nord du Québec, était une ville assez prospère, comptait près d'une dizaine, une quinzaine de milliers d'habitants dans les années, par exemple, les années 70-80. Et bon, quand la compagnie qui exploitait le minerai de fer a décidé de fermer à cause de coûts miniers qui étaient moins chers ailleurs, l'Iron Ore a décidé de fermer le village. Malheureusement ou heureusement, il y a une certaine communauté qui s'appelle les Naskapi qui sont là-bas et grâce à la convention de la baie James, ils ont eu le droit d'avoir les services toujours maintenus dans cette ville. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas pu complètement fermer la ville. Ils devaient garder l'eau courante et puis l'électricité puis les services de base pour ces populations-là. Donc, la ville n'a jamais été détruite. Évidemment, une bonne partie de ces installations ont été détruites. On ne retrouve plus le cinéma, ni l'église ou certains bâtiments ont été détruits, mais une bonne partie du village subsiste encore. Et à cause d'une entente législative, on n'a pas pu la détruire. Et donc, le gouvernement a vu que les communautés autochtones sont restées là-bas. Ils ont décidé d'investir les lieux. Et puis, le gouvernement n'a pas voulu répéter cette expérience. C'est pour ça que par après, d'autres villages fantômes, comme par exemple Gagnon qui se retrouve sur la route vers Fermont, mais qui s'y retrouve plus puisque dans les années 80, ça a été complètement rasé, mais complètement. Là. Il reste plus que certaines plantes qui poussent à travers le béton où se trouvait le centre d'achat. Et étant donné qu'on n'a pas voulu répéter l'expérience de Schefferville qui est restée ouverte même quand la majeure partie de la population est partie, on voulait pas qu'il se répète la même expérience. On a décidé de raser ce village-là. Et tous les autres villages de la sorte par après ont été rasés. Voilà pourquoi c'est un peu difficile de répertorier les villages fantômes au Québec. Mais néanmoins, Schefferville peut être considéré comme un village fantôme, mais vivant. C'est-à-dire qu'il y a encore... Il n'y a peut-être pas une grosse activité industrielle, mais il y a encore bon nombre d'habitants. Il y a 3000 habitants. On voit souvent dans les guides touristiques qu'il y a seulement 300 habitants, mais il y a des communautés autochtones juste à côté qui ne sont pas répertoriées dans la ville de Schefferville. Mais si on compte les communautés autochtones qui sont là, il y a pas loin de... autour de... Je ne veux pas m'avancer puisque je n'ai pas le chiffre exact. Mais il y a autour de 2000 habitants dans Schefferville. Il y a aussi Kawawa, Chikamash, la communauté Naskapi qui est un peu plus loin. Et puis, dans ce fameux village semi-fantomatique, il existe une autre histoire un peu plus fantomatique qu'on va explorer. On va, par contre, juste auparavant, mettre une pièce musicale. Il s'agit de la pièce Word de Smashing Pumpkins. On se retrouve tout de suite après pour l'histoire fantomatique de Schefferville. Thank you. Vous êtes toujours sur les ondes de État du Splendeur, les ondes de Radio Centre-Ville. Vous écoutez État du Splendeur avec Patrick Assicane. On parlait de la chronique fantomatique précédemment. Et puis, il y a une histoire qui se trouve à s'être passée à Schefferville. Je vais devoir vous la conter assez brièvement. Comme vous savez, Schefferville, je viens de vous le raconter, est une ville au nord-est du Québec, autour du 54e parallèle. Et puis, sans re-rentrer dans l'histoire de Schefferville, c'était une ville quand même assez prospère. Il y avait une présence inoue montagnaise dans le secteur depuis plusieurs siècles. Mais la ville en tant que telle avait été ouverte par Maurice Duplessis, oui, nul autre que lui, en 1955, le 1er août 1955. Et puis c'est une ville construite entre deux lacs, entre le lac Nob et le lac Pierce. Et puis, sur la presqu'île du lac Nob, il y a une pointe qui avance dans le lac, et puis il y a un édifice qui est connu sous le terme de la « guest house ». Et puis Duplessis aimait souvent aller s'évader dans cette ville, Schefferville, fruit de son règne. Et puis il allait souvent au guest house s'exiler pour essayer d'oublier la civilisation, j'imagine. Et puis aujourd'hui, le guest house existe toujours. C'est bizarrement le seul établissement où les Innus, ils n'aiment pas trop aller là. Et puis, certains disent même qu'on vante le site à certains touristes en disant que le lieu, il n'y a pas d'Indiens à cet endroit-là, donc les touristes peuvent y aller. C'est une quasi-ségrégation, mais que voulez-vous? J'espère que la situation tranquillement change. Mais en effet, pour y avoir été, Schefferville... Et je peux dire qu'il existe un caractère particulier autour du guest house. C'est un très bel endroit, un beau bâtiment, mais la population Innu n'aime pas y aller trop. Ils disent que c'est pour éviter certains esprits. Et suite à vérification, effectivement, c'est que Maurice Duplessis, lors d'un voyage au fameux guest house à Schefferville, mangeait sa soupe tranquillement quand minuit sonna. Et puis, à minuit plus 5, il est tombé mort la face dans sa soupe au pois, le 7 septembre 1959. Et puis, depuis ce temps-là, les Innus, les Montagnais, disent que cet endroit est un peu hanté. Il y a son esprit qui aime rôder toujours autour du guest house et préfère le laisser seul. C'est une curieuse fin pour ce chef d'État. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous encourage à rester sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et puis, on va se laisser avec une pièce de Samian qui s'appelle « Les Nomades » qui a, à mon avis, pas assez joué sur les ondes. Et puis, c'est en compagnie avec un très bon reggae-man Innu qui s'appelle Shawit. Donc, on va tout de suite se laisser avec « Les Nomades ».
To my weak known, to how we cheat, Nano, no sugar shot, you know, not them diag mamma. To my weak known, to how we cheat, Nano. On chante au nom du peuple, au nom de la mère terre. Que les peuples s'unissent et qu'on enterre la hache de guerre. Moi je viens d'un monde complètement différent, sur une réserve indienne mais issue de père blanc. L'héritage de ma mère, mes origines algonquines, tellement mêlées en cours de route sur ma propre estime. Suis-je amérindien ou blanc, et est-ce à moi de décider? J'ai compris que j'étais humain mais séparé d'une moitié. Y'a un peuple qui me parle et qui me rapproche de la mère terre, pendant que de l'autre côté on me dit que je marche pas sur mes terres. Y'a des milliards de gens donc des milliards de races, pile message, pas juste d'avoir une bizarre de face. On a plus de plumes ni de flèches, j'ai à courir sur des chevaux. On a le cœur internet, puis on mange du McDo. On sort de la réalité, on ignore la vérité. Je récite la suite d'une histoire non terminée.
Tu m'as oui, non, tu as oui, cheat, nano. Nous, tu veux chaud, tu n'as pas d'âme d'ayak, maman. Tu m'as oui, non, tu as oui, cheat, nano. Nous, tu veux chaud, tu n'as pas d'âme d'ayak, maman. Tu m'as oui, non, tu as oui, cheat, nano. Nous, tu veux chaud, tu n'as pas d'âme d'ayak, maman. Chigui chigui
Kim Nish to Stut Mak, Yam Kam Nish to Jishak, Bigger to Jake Wan to Mahigan home. A two capital of Tayang Nish to Mono, a two capital it yak chicken tatano, Big or the Tig Wan to Jishpa denano, Big or the Tig Wan to Niga Jigodan, Nana, Eskashgat, Niga Jigun, Pumet Yak Mukestan, Womachigui Mamit no Machigui Nani Bunon, Mamute Boyak Mukatach, Kupita Gulno.
Samian Shawid, Yaman, that's it. Bigo Ganayot et Namor, et c'est le même shit, la même problématique. Des sauvages, une métaphore d'Abitibi à Côte-Nord, où on explore les territoires.
Tu m'as oui, non, tu as oui, cheat, nano. Nous, tu veux chaud, tu non, nam, nam, ta yak, mamo. Tu m'as oui, non, tu as oui, cheat, nano. Nous, tu veux chaud, tu non, get your ten, non.
Nigi, nizi, do, dane, ah, we are go, we are na, nish, ni, tapita, we zi, we, nan, ta, wa, ka, ya, go, ni, ta, ya, mo, go, ki, chi, bishwa, ma, ki, jo, jo, mi, na, na, ki, go, hi, ne, ge, na. Kodagi waka wiyako kitiko kega nini tagi gake jipi muzian kichi mane awiyako kde wake pepagan inagan ezi watch e abita wizi watch kia win win e tai mochi jina gozi watch kizaga amin e image ichi te akopan kia win kiki genida zinanan maya te pwe winin win ne tipa jimonan e gamashe kishi jigade kadiso gan.
L'Auto-Québec présente la 25e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 12 au 14 juillet. 57 concerts, 32 pays, des surprises, des nouveautés et les plus grands noms de la musique du monde venus tout spécialement célébrer une exceptionnelle édition anniversaire. Avec entre autres le grand Manu Dibango, la Belle des Gonaïves, Emeline Michel et Macadam, dont le vidéoclip Obana a fait le tour du monde. Le Festival Nuit d'Afrique, un quart de siècle de musique du monde. Détails au Festival Nuit d'Afrique, www.festivalnuitdafrique.com.
Wide Awake, samedi matin, 9h à 10h.
Il y a quatre éléments.
Le cavalcade de Big Band avec Jerry Friedlansky.
Le programme pour des aînés.
Des informations sur la santé alternative.
Et ça finit avec les livres parlés.
Notre culture, c'est notre âme, notre richesse, notre identité. Kiltipanon, tous les dimanches, de 19h30 à 20h, avec Jean-Aubert Bellarmin et Marie-Claudette Syriac sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. C'est la culture haïtienne.
Tout l'été, l'événement Les Parcs en prose vous offre gratuitement des livres dans plusieurs parcs à Montréal. Pour connaître les détails, visitez les sites web suivants. Les Ailes de la Culture et Édition Pointe Fuite Radio Centre-Ville sont les fiers partenaires de cette première édition.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer.
Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.